Je vais employer d'autres termes. Marseillais, pas tellement mieux, je ne sais pas. Il y a une petite communauté turque, je ne sais pas si vous en avez. Et alors, cette perplexité-là, cette problématique-là, elle est rompue, brisée par cette braïta. Ceux qui n'avaient pas étudié le Talmud, on peut se dire ils ne savent pas. Mais ceux qui avaient étudié le Talmud, ils connaissaient cette problématique. Mais quand on est pris dans un conditionnement, finalement on est conditionné. Et c'est clair. Et alors la braïta continue en disant, « Chez Koladar, Eret Israël, parce que tout celui qui habite Eret Israël, Domé, Kemi, chez Yeshto Eloka, ressemble comme quelqu'un qui a un Dieu. » Je reviens en hébreu. Domé, il n'y a pas l'émi chez Yeshto Eloka, à quelqu'un qui a un Dieu, mais Domé, Kemi, comme quelqu'un qui a un Dieu, je reviendrai sur cette précision. Et Koladar, Berut Salaharet, et tout celui qui habite en dehors du pays, Israël, Domé Kemi, ressemble comme quelqu'un chez Loéloka qui n'a pas de Dieu. Et nous avons inversé, dont l'analyse, je crois que c'est là qu'on était arrivé, inversé, je vous donne la référence, c'est dans Vaïkra, Lévitique, chapitre 25, verset 35. Voilà ce que dit le verset. La tête lachem. Je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est le commencement du verset, la tête lachem, pour vous donner, et Eretz Knaam, le pays de Knaam, l'Iyot lachem l'Elohim, pour être pour vous Dieu. Et je paraphrase un peu, pour être votre Dieu. Le raisonnement du verset, et vous pouvez déjà le voir à travers Rashi, mais je voudrais avancer un peu rapidement, c'est ceci. Objectif de la sortie d'Égypte, c'est pour vous donner le pays de Knaam, pour pouvoir être votre Dieu. Ça veut dire, le raisonnement met en évidence quelque chose de très important, la relation entre Dieu et Israël est réelle que si Israël est chez le pays de Canaan. C'est comme ça que c'est une vertu. Pour vous donner le pays de Canaan, pour être vrai. Et avant d'aller plus loin, je voudrais ajouter un petit chidouche. Chidouche, tout le monde comprend ce que ça veut dire? Une nuance de sens, okay? Un renouvellement de nuance de sens. Il y a quand même une difficulté que tous les commentateurs de ce texte ont signalé. L'expression n'est pas habituelle, et je l'ai signalé tout à l'heure, « Domé Kemi Shein Lo Eloka ». Pourquoi s'exprimer de façon aussi contournée, détournée, ressemble comme quelqu'un qui a un Dieu, ressemble comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu? Il faudrait dire peut-être plus directement, celui qui habite en Eretz Israël a un Dieu, celui qui habite en Eretz Israël n'a pas de Dieu. Et nous aurions la même objection de la suite. Et ça veut dire que les goïms n'ont pas leur Dieu, n'ont pas leur manière d'être liés à Dieu. C'est clair? Bon. Alors, l'explication que je voudrais vous donner, elle s'inspire d'un enseignement du Shla, et qui dit ceci. Quand quelqu'un dit « j'ai un Dieu », qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire « je crois en Dieu ». Il veut dire « je crois, je reconnais qu'un Dieu s'occupe de moi ». Mais il y a eu un événement dans l'histoire des hommes où Dieu s'est nommé par le nom des hommes à qui lui s'est révélé. De qui on peut dire qu'on est sûr qu'ils ont un Dieu? D'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Torah, lorsqu'elle parle du Dieu d'Israël, dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ces hommes-là, quand on les cite, on sait qu'ils ont un Dieu. À travers cette expression, Eloke Abraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. C'est une réalité tout à fait autre. Est-ce que c'est clair? Ce sont ceux qui ont mérité que Dieu se révèle à eux, mais plus profondément, se nomme de leur nom. Est-ce que c'est clair? Alors là, il n'y a qu'à de dire que ceux qui sont en Eretz Israël ressemblent à ces hommes-là, qui avaient un Dieu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils vont finir par ressembler à quoi? Comme ceux-là qui ont un Dieu. Ce n'est pas simplement une nomination, une dénomination. C'est que la relation du Dieu unique de toutes les créatures avec Abraham, Isaac et Jacob, elle est d'une autre catégorie. Elle est d'une autre catégorie. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob, ça c'est sûr, ils ont un Dieu. Nous croyons en lui. Est-ce que c'est clair? Il faut se mettre à tout Israël pour que dans cette communauté-là, j'ai pas dit communion à cause du mot, okay, mais c'est ça qu'on aurait dit s'il n'y avait pas les égoïstes, okay, dans cette communauté-là, Israël peut dire que Dieu s'appelle Dieu d'Israël. Okay. Ça y est, c'est clair? Par exemple, dans nos dialogues avec les théologiens goïms, on est tous d'accord officiellement qu'on ne peut pas définir Dieu. Mais lorsque les théologiens juifs parlent entre eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Nous savons comment définir Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que lorsqu'on discute théologie générale, ah, Dieu, on ne peut pas connaître. Hein? Mais on leur dit, oui, vous êtes d'accord, Dieu, on ne peut pas connaître. Hein? Mais dans le limoude intérieur des rabbins entre eux, alors on sait très bien que ce n'est pas vrai. Parce qu'on peut connaître Abraham. Et si on connaît Abraham, on sait que ça veut dire Dieu d'Abraham. On peut connaître Isaac. Et si on connaît Isaac, on peut savoir ce que veut dire Isaac. C'est-à-dire, on peut connaître Israël. Et si on connaît Israël, on sait que ça veut dire Dieu d'Israël. C'est clair? Ça veut dire, la difficulté, elle est la même en surface. Mais là, il y a une solution. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un mystère. Qu'est-ce que c'est Abraham? Qu'est-ce que c'est Isaac? Qu'est-ce que c'est Israël? Surtout Israël. Il y a un texte dans le Zohar qui dit, il y a trois choses mystérieuses qu'on ne peut pas définir. On ne peut pas donner un nom, c'est Dieu, la Torah et Israël. Et c'est vrai, Israël, c'est très mystérieux à définir. On en parle que par allusion. Et dans la bouche de quiconque parle d'Israël, ce mot-là a un sens différent. C'est vrai ou pas? Je citais souvent cela de cette manière. Tous les mouvements de jeunesse juifs ont connu que le sujet d'étude, c'était qu'est-ce que c'est être juif? C'est le sujet des servitudes partout. Vous vous rappelez de cela? Okay. Et jamais vous aurez un mouvement français dont le sujet serait qu'est-ce que c'est le français? Français, c'est clair. C'est pas simple, mais c'est clair. Enfin, c'est clair à définir. Okay. Vous avez compris, quoi. Dès que je dis monégasque, bon, l'idée qui apparaît là est très claire. On peut l'approfondir, mais il n'y a pas de mystère. Un monégasque, c'est un monégasque. Juif, qu'est-ce que c'est? Vous commencez le Israël, qu'est-ce que c'est? Dirais, on ne connaît que les limites extérieures de l'identité d'Israël. Il y a une limite extérieure qui s'appelle Ishmael, une limite extérieure qui s'appelle Esav, ça on peut définir. Un musulman, qu'est-ce que c'est? Un chrétien, qu'est-ce que c'est? Un juif, c'est mystérieux. On n'arrive pas à définir. Oui. Donc le mystère est là, mais quand même, la connaissance est accessible. Da et Eloke Abicha. Comment je vais connaître le Dieu de mon père? C'est si je connais mon père. C'est pas plus compliqué que ça. Vous avez compris le problème? Freud nous dira, c'est impossible. Oh, mais Freud était un juif assimilé. Alors, revenons donc à notre question. Ça veut dire, celui qui habite en Eretz Israël, eh bien, il ressemble à ceux dont on sait qu'ils ont un Dieu. Mais dans quelle catégorie, encore une fois? Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Or, il est évident que c'était relié à la terre d'Israël. Tout se passe comme si Israël, Dieu s'adresse à Abraham pour la première fois, Erecha, pour lui dire: rendez-vous là-bas où je serai ton Dieu. Et comment? Et Orkazim, c'est pas son Dieu? Oui, mais à travers l'intermédiaire de l'impersonnel. L'intermédiaire de l'impersonnel de la périphérie. Mais c'est au centre que se dévoile la relation personnelle. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais c'est rattaché à un problème général très important, la différence de l'expérience religieuse chez les Goïm et en Israël. Chez les Goïm, c'est l'homme qui va vers Dieu. Et il arrive là où il arrive, et il trouve l'idole qu'il trouve. Il recherche Dieu, mais il arrive à la projection de l'homme parfait selon lui, et c'est le type des religions des Goïm. C'est-à-dire, Elim, les faux dieux, c'est quoi? C'est la projection, dans la limite de la perfection, de l'idée de l'homme parfait tel que le Goï le connaît. Sauf le musulman. Quoique, le musulman s'interdit cette définition et dit Dieu d'Abraham. Il fait. Tandis que vous savez que le chrétien ne s'arrête pas à Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire, dirait Pascal, vous connaissez la suite. Et c'est-à-dire l'identité de l'homme parfait, le juif, d'après les chrétiens. Et c'est-à-dire, c'est l'homme qui va vers Dieu, alors que dans le cas d'Israël, et la tradition musulmane se rattache au patriarche d'Israël, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. C'est exactement l'inverse. Alors c'est dans cette catégorie-là qu'il faut comprendre à celui qui a un Dieu. Ça y est, c'est clair jusque-là? Objection de la Gemara. Vechol hadar behutsala Vechol sheno dar be baaret en lo eloka. Et ça voudrait dire que celui qui n'habite pas, que tout celui qui n'habite pas en Eretz Israël n'a pas de Dieu. Et vous comprenez l'objection. Et les autres, ils ont leur Dieu. Vous comprenez à quel niveau l'objection? Et là, alors la Gemara va dévoiler ce que la Braïta veut lui dire de façon plus difficile encore, plus grave encore. Et là, l'Omar Lecha. Mais c'est pour te dire que tout celui qui habite en Khutlaaret, Keilu Ovel Avodat Kochabi, c'est comme s'il était idolâtre. Vous suivez? C'est là qu'on est arrivé. Okay? C'est comme s'il était idolâtre. Ça veut dire, bien sûr qu'il a un Dieu, mais à la manière des goïms et de leur Dieu. Ça va jusque-là? Donc, Vechen be David ou Omer. Et ainsi, nous trouvons un verset dans l'histoire du roi David qui dit Ki gereshuni hayom meistapeach benachalat Hashem lemor lecha avod elokim acherim. C'est dans le livre de Shmuel, livre 1, chapitre 26. C'est un livre. Qu'est-ce que vous avez? J'arrive pas à lire. C'est 26 ou 27? 26. Alors, Shmuel Aleph, Kalvam. Oui, 26. C'est-à-dire qu'à un certain moment, David a perdu une guerre contre un roi de Aram, et puis finalement, on l'a déporté du pays. Et alors il se plaint en disant, Gereshuni Ayom, ils m'ont expulsé aujourd'hui, Mitzitapéar Benachalat Hashem, pour m'empêcher d'être indexé littéralement, d'être relié à l'héritage de Dieu, les Morlecha, en te disant, l'Ech, Avo de Elohim Acherim, va adorer les dieux autres. Et la Gemara objecte, Bechimia Marloni David, l'Ech, Avo de Elohim Acherim. Mais qui a dit à David, va adorer des autres dieux? Simplement, lui a dit, n'habite plus chez toi. Mais la différence, c'est alors la Gemara enchaîne, et la Lomar Lecha, mais c'est donc pour te dire, Koladar Bechut Laaret, que tout celui qui habite en dehors du pays, par exemple, même à la limite, dans le cas de David, il est déporté, il est expulsé. Et comment David s'est plaint en disant, ils m'ont expulsé, ça veut dire, ils m'ont dit, il va adorer des autres dieux. Mais la Gemara dit, mais qui lui a dit va adorer des autres dieux? On lui a dit va habiter ailleurs. Okay? Alors la Gemara dit, Keilu Orvela Olas Kochabim, ça veut dire donc qu'habiter en dehors du pays, c'est comme si on était idolâtre. Alors là, une petite parenthèse nécessaire. Il y a une expression analogue dans une autre Gemara, qui est la Gemara de Yoma, en Aseret Yoma, et qui dit, Koladar Bechut Laaret Oved Avodat Kochabim Betahara. C'est-à-dire tout celui qui habite en dehors du pays d'Israël, est idolâtre en état de pureté. Oved, Avodat Kochabim, Metahar. Ici, c'est comme s'il était idolâtre. Je veux dire que, finalement, l'indice de l'identité d'Israël, lorsqu'il n'est pas sur la terre d'Israël, qui n'est plus dans ce verset de Vaïkra pour être votre Dieu de le pays de Canaan, c'est qu'il est dans la même situation de la relation du Dieu unique à tel ou tel peuple, puisqu'il est dans ce peuple, et qu'il doit faire un effort supplémentaire, un effort particulier, disons, le monde supplémentaire n'est pas à sa place, un effort, il peut essayer de définir, pour rester ce qu'il est, malgré cette influence qui ferait de lui quelqu'un d'autre. Qui ferait de lui qu'à force d'être sous le... Ça y est, c'est clair ce que je dis? Bon. J'essaie de vous donner un exemple. Si deux Juifs qui se sont assimilés dans les pays où ils étaient se rencontrent, alors ils se rencontrent comme deux hommes différents. Je prends des exemples extrêmes. Disons, un juif polonais assimilé, et ça existe, c'est-à-dire qu'il n'a rien gardé de la Yiddishkeit du ghetto. Déjà, des juifs qui étaient polonais, qui étaient assimilés complètement à Varsovie dans les années 20, ça veut dire qu'ils étaient de culture polonaise, pas du tout yiddish. Vous comprenez ce que je veux dire? D'un côté, et d'un autre côté, disons, un juif marocain, mais assimilé, pas un juif du Mélard, un juif de, comme on appelait ça à Meknès, la ville nouvelle. Et alors, vous les faites se rencontrer, à la limite, le choc est de polonais à marocain, juif là-dedans aussi. Mais si vous prenez deux juifs du ghetto polonais, un du Mélard, ils se ressemblent, comme ça fait peur. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que, finalement, il faut faire un effort gigantesque pour arriver à sécréter une carapace pour empêcher que cette influence du dieu Goy, de Dieu pour les Goy, c'est la même chose, okay, arrive à nous atteindre. On devient comme les autres. Vous avez compris le problème. Ça m'a beaucoup frappé, cela, dès que, dans les années 40, que j'ai connu cette expérience, la fin des années 30 déjà, quand pour la première fois, le peuple juif s'est mis en mouvement à cette échelle, et que finalement les juifs ashkénazines ont commencé à rencontrer les juifs sfaradim. Alors, l'étonnement le plus énorme, c'est comment après 2000 ans, on est resté les mêmes. Parce que les petites différences, pour les juifs de la Torah de l'autre côté, les petites différences, c'est des petites différences. Mais pour les juifs assimilés, c'est des différences énormes. C'est aussi différent qu'un Polonais et un Marocain. Et c'est divers. Je me rappelle, la première fois que j'ai rencontré le Rav Kook, c'est pendant les brachas, lui, c'est d'une lignée de rabbins de Lituanie. On ne s'était pas vu depuis 2000 ans. Eh bien, je vous garantis, je vous raconte pas des histoires, on a raccroché à la première phrase. Okay, on a enchaîné. Comme si on s'était vu la veille. Alors, ça faisait 2000 ans qu'on ne s'était pas vu. Vous comprenez? Et alors... Quel? Betahara, ça veut dire en état de pureté. Mais il est Ored Avodat Kohabim. Ça veut dire il est le prêtre des nations chez eux. Mais vous voyez quel est ce destin? Est-ce que c'est clair? Peut-être il faut simplement expérimenter cela, chacun dans la manière dont il a vécu cette situation. Ça veut dire qu'il faut savoir, d'après le contraire, il faut savoir que si on vit à l'extérieur, on est en situation d'idolâtre. Alors, si on est capable de garder la pureté intérieure, on est en situation d'idolâtre de pureté intérieure. Si on n'est pas capable de garder la pureté intérieure, on est comme celui qui est idolâtre. Pas chaud. Vous voyez que c'est ces gens-là que la Gemara a dans son collimateur. Parce que à cette époque, parce que ça veut dire collimateur, bien sûr. Parce qu'à cette époque, il y avait la grande communauté de Babel. Et cette Gemara parle pour les Bablaïm. Et on arrivera à des petites citations d'autres livres de Midrash, de Gemara, où vous allez voir que ces rabbins qui sont en jeu dans la discussion qui va commencer ici tout à l'heure, finalement, lorsqu'ils parlent de la règle de comment considérer ces juifs idolâtres là-bas de Babel, les grands d'Israël de Babel, hein, ils les excommunient sans problème. Vous savez qu'est-ce qu'une excommunication, hein? C'est une excommunication, hein, sans problème. Et nous redécouvrons que notre problème avec la diaspora, c'est Babel et Jérusalem, Yerushalayim et Babel. Vous comprenez le problème? La seule question qui va rester, mais pas aujourd'hui, c'est, bon, et ces juifs de Brooklyn, Babel, hein? Et c'est vrai, c'est Babel. Mais c'est pas une question de nombre. Vous savez, la vérité, ça n'a jamais été une question de nombre. C'est notre problème. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup. C'est parce qu'il y en a, Sam. Et ces juifs de Brooklyn, ils n'ont pas lu ça. Ça, c'est la question qui va apparaître. Hein? Mais c'est là pour un autre jour. Parce que dans tous les cas, vous allez voir que cette question-là, il faudra leur demander à eux. Pas au livre. Et dans tous les cas, rappelez-vous ce que j'ai dit assez rapidement tout à l'heure. C'est que on m'échappe, mais il faut que ça me revienne. C'est que oui, quand on est conditionné, on est conditionné. C'est vraiment, je vous renvoie à cette catégorie. Étudiez ça dans les manuels de psychologie. Quelqu'un qui est conditionné, en plein jour, il voit rien. Conditionné, on est conditionné. Et alors, quand on est acculé, on va faire dire à ce texte le contraire de ce qu'il veut dire. Et ça, je vous citerai dans une des théories que je vous critiquerai. Mais je dis à l'avance, faites attention. Je vais vous dire comment j'ai l'habitude de dire. Vous savez comment dit Descartes ? Je pense donc je suis. Ne réagissez pas en disant il pense donc je suis. C'est-à-dire que vous allez penser avec votre tête. De telle sorte de voir vous qu'est-ce qu'il y a écrit dans le texte. Moi je peux que vous aider. C'est clair. J'ai bien compris. De telle sorte que le moment venu, je vous dirai et les autres lisent à l'envers, vous sachiez que c'est vrai. Hein? Surtout quand ils sont à l'envers. En tout cas, pour revenir à notre question. Ça veut dire que on est arrivé au point que voilà ce que la Braïta a voulu dire. C'est pire que c'est comme si qu'il ressemble pas à quelqu'un qui a un Dieu. Bon, il n'est pas visible qu'il est fils d'Abraham, Isaac et de Jacob. Quand même, c'est un juif, non. C'est un idolâtre en pureté juive. Vraiment, je dis souvent, c'est clair ce que je dis là? Je dis souvent dans d'autres sujets, mais ça se relie, que finalement la communauté juive en France, qui est le pays que je connais le mieux de ce point de vue-là, c'est finalement une des religions chrétiennes, celle qui est de rite juif. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire là? C'est méchant, enfin, c'est terrible ce que je veux dire. Mais d'abord, les Français dans leur naïveté cartésienne profonde, c'est comme ça qu'ils pensent, hein, et les juifs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Est-ce que c'est clair? J'ai assisté une fois à Grenoble, où il y a un... Enfin, il y a déjà 2-3 ans, qui est Grenoble, la région. Il y avait d'ailleurs un petit juif qui a fait sa ralère depuis, qui avait l'accent grenoblois. Alors elle parlait de Loupan. Loupan, tu sais. je l'avais entendu. Vous savez qui c'est, je crois, non? Et elle s'appelle toujours Bensoussan, à Grenoble. Et alors, c'est elle. Non. J'étais au centre communautaire là-bas, un centre communautaire, je dois vous dire, extrêmement sympathique, de niveau culturel français notable. Très peu de gens savaient l'hébreu là-bas, mais enfin, je veux dire, par rapport au centre culturel de France en général, ça faisait impression, pour ceux qui connaissent la région. Et puis, il y avait, dans le colloque que nous avions, il y avait le rabbin de la ville, qui était en même temps aumônier dans l'armée. Bon, quand son tour de parole est arrivé, il était obsédé par un seul problème, de raconter à ses juifs la place qu'il avait parmi les autres aumôniers. Alors, il y a l'aumônier protestant, l'aumônier catholique, et bien il y a l'aumônier juif. Alors donc, en tant que rabbin, vous voyez, c'est pas du tout, je ne veux pas du tout accuser cela d'un hypertrophiant de problème, mais c'est pour citer un profil de situation. Est-ce que c'est clair? Après, je lui ai parlé en hébreu, en privé. Alors voilà donc les données de ce texte. Là-dessus, on va nous greffer une histoire, enfin une histoire marassée, quelque chose qui s'est passé, un événement, et qui va éclairer ce problème. Et on va rentrer en plein dans notre question. Alors vous suivez, Rabbi Zera, Hava Kamishtamit, c'est l'araméen, je traduis directement en français, Rabbi Zera se cachait, Hava Kamishtamit, Miné des Rav Yehuda, de Rav Yehuda, et nous savons que c'était son maître. Alors retenez bien ces deux noms d'abord. Rav Yehuda, dans cette histoire, c'est le maître. Rabbi Zera, c'est l'élève. Et la Gemara nous dit, elle cite une braïta qui se trouve dans la Maseret Shabbat à la page 41. Et tout à l'heure, je citerai commencer dans la Maseret Shabbat. Et la Gemara nous dit, Rabbi Zera se cachait de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Débat à l'émissacle et Eretz Israël, parce que Rabbi Zera voulait rentrer en Eretz Israël. Ici, on se trouve à Babel. Okay? Alors, il se cachait de son maître. Pourquoi? Quels sont les éléments? C'est que le maître ne voulait pas qu'on quitte Babel pour monter en Eretz Israël. En termes contemporains, ça veut dire Rabbi Zera voulait faire ça à l'IA, mais son maître n'était pas pour. Alors, il était embêté, Rabbi Zera. Il se cachait de son maître. Il n'allait pas le voir. Pourquoi? Parce qu'il était dans une impasse. On n'a pas le droit d'aller voyager sans prendre congé de son maître. Mais s'il va prendre congé de son maître pour lui dire « Je m'en vais en Eretz Israël », son maître va lui interdire. Et on n'a pas le droit de désobéir à son maître. Non, situation d'impasse. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la situation des juifs pieux depuis les années 30. Non, mais depuis la déclaration de Balfour. Ils veulent tous venir en Eretz Israël. La preuve, c'est que tous les soirs du Seder, ils disent « Les chanahabas ». Seulement, dès qu'ils vont demander prendre congé de leur rabbin, le rabbin va leur dire, sous le trait, je ne sais pas comment on dit ça en français, il va dire, quoi, tu vas aller chez les sionistes? Interdit. Je ne veux pas. C'est clair? Mais Brooklyn. C'est pas clair? Alors, dites encore, je parle trop vite.
Non, je
ne
comprends pas
si
vraiment ils sont
en
mode pourquoi les rabbins décident de ne pas sont d'autres personnes d'être là-dedans.
Ça dépend. Vous savez que dans le pays, il y a toutes sortes de juifs. Dès qu'on a ouvert les portes, grâce à Dieu, Dieu bénisse, on croyait qu'on était 12 tribus, c'est 12 millions de tribus. Et il y a toutes sortes de juifs. Vous avez ici des juifs de la Galoute, qui sont rabbins de communautés ici, parce qu'ils ont des communautés de la Galoute. Il y a des ghettos juifs dans le pays. Et il ne faut pas schématiser. Non, je comprends bien votre question. Alors, ça dépend de qui vous parlez. Mais non, là-dessus, sur ce problème, il y a deux catégories. Soit ils sont envoyés pour faire leur travail de rabbin d'Eretz Israël et faire que les juifs de là-bas reviennent, c'est très bien, ils sont en mission. Je l'écris. Soit ils sont considèrent que l'État d'Israël se trompe, les rabbins s'y ont compris, mais ils sont là parce qu'ils sont là, et ils forment les rabbins ici pour envoyer renforcer Babel contre Israël, contre Jérusalem. Là, j'ai employé un mot très très dur. Personne ne peut souhaiter d'être à leur place, parce qu'ils ont quand même une conscience, et qu'ils se trouvent dans une double situation de parasitisme qui ne peut pas faire qu'ils ne soient pas malheureux de ça. Parce que ce n'est pas possible que les hommes de cette envergure, que chacun a l'envergure qu'il a, ne sachent pas qu'ils sont parasites d'Israël et parasites de l'Amérique. À double sens. Par conséquent, vous me dites, pourtant il y en a. Oui, mais c'est notre problème. Et Babel a envoyé des émissaires en Eretz Israël pour babéliser Eretz Israël. Je ne sais pas si vous comprenez ce que vous... Alors, je n'ai pas dit que c'était, que ça se passait à Bnei Brak, je n'ai pas dit que ça se passait à Beit Vagan, je n'ai même pas parlé de Mer Shearim, mais enfin, vous savez où c'est.
À l'époque de la
guerre
de Babel, quelle était leur influence?
Ah, on va y arriver plus loin. Okay. On va y arriver plus loin. D'ailleurs, assez rapidement. Mais d'abord, je voulais vous situer les personnages et la problématique. Est-ce que c'est clair? Voilà, on nous dit Rabbi Zera se cachait de son maître Rabbi Yehuda. C'est moi qui ai ajouté son maître, hein, quand on est un peu familier avec la Gemara. Et Rabbi Zera, comment ça s'est déclenché? La Gemara ne dit pas. Elle ne parle pas de choses évidentes. Si Rabbi Zera est un juif normal, il ne peut pas ne pas un jour sentir qu'il ne supporte pas de vivre à Babel, même dans la vie de Rabbi Zera, et il préfère entrer en Eretz Israël. Et à l'époque, il y avait une différence de niveau de vie dont on n'avait aucune idée. Eretz Israël était détruite complètement. C'était le désert, c'était les moustiques, c'était les Perses qu'il y avait encore là-bas, et ensuite il y a eu, bon, enfin bref, vous connaissez toute cette histoire, alors qu'à Babel, c'était les grandes communautés juives florissantes. Et voilà que Rabbi Zera, ça s'est déclenché, il a décidé de monter en Eretz Israël. Alors il avait peur d'aller prendre congé de son monde. Je vous lis, non, avant de vous lire la discussion entre les deux, telle que la Gemara la restitue. Quel est l'argument de Rabbi Yehuda? Pourquoi il lui dirait non? Et quel est l'argument de Rabbi Zera qui dirait je veux quand même? Okay. Mais encore une fois, retenez cet élément, ça on va le retrouver très souvent. Dans la tradition juive, surtout dans la tradition talmudique, le respect dû au maître est total. Par conséquent, là, il y a une impasse qui cadenasse le problème de Rabbi Zera. C'est clair jusque-là? Je vais faire une anticipation sur l'époque contemporaine d'où la Shoah est sortie. Et là, vous vous rappelez du livre que je vous ai cité, Emma Banim Semecha, qui est la confession d'un de ses rabbins qui s'est converti au sionisme à Budapest étant des nazis. Okay. C'est bien Budapest, la Hongrie?
Oui.
Et cette problématique, c'est que finalement, les événements ont marché depuis Herzl. Herzl, c'est un juif assimilé. Alors les rabbins ont dit quoi? C'est celui-là le Messie? Ça va pas? Okay. Alors, y avait de quoi dire. C'est pas possible. On va pas se déjudaïser pour devenir israélien. Je raccourcis beaucoup de raisonnements, mais vous comprenez. Et alors, ils lui ont dit à peu près ce que, en son temps, on avait dit à Moïse à la sortie des îles. Tu bégayes. Vous vous rappelez que vous avez dit ça? Et pourtant, c'est Moïse qui avait raison. Et je suppose que Herzl ne parlait même pas yiddish. Et alors, imaginez, Herzl arrive dans la synagogue et disant, ben vous savez, le temps est arrivé, sinon, mes agneaux... Alors le rabbin qui se lève dit, sors de là, mécréant. Alors, mais c'est exactement la scène que Moïse a vécue. Je ne sais pas si vous comprenez la correspondance. Et pourtant, sauf ça, il s'avère, en fin de compte, que c'est Moïse qui a raison. Alors il y a un stade, peut-être on peut se dire, alors, Moïse, c'est quoi? Eh bien, c'est le fils du pharaon. On ne sait pas que c'est le fils du chef de la tribu de Lévi. Non, c'est le fils du pharaon. Mais ensuite, les événements marchent, se dévoilent. Et alors, assez rapidement, et c'est évident, le rabbin Zera d'ici, c'était 1000 rabbins des années 30, des années 40, jusqu'à les années 80. C'est-à-dire qui, finalement, ne supportent plus Babel, et qui voudraient bien venir, seulement voilà. Leur maître a dit que, et ça, on ne peut pas, il faut aller prendre congé de Rabbi Yehuda, mais on ne peut pas. D'autant plus que, la plupart du temps aujourd'hui, le Rabbi Yehuda qui avait commencé à dire non, il est mort, il n'est plus là. Alors on va aller lui dire, super, pour montrer que ce problème-là, même dans... Ce petit détail du Mahasé, c'est le problème de notre contemporanéité. C'est clair? Bon. Et alors, comment la Gemara, dans Shabbat, a raconté cette histoire? Ici, on nous a cité que le début. C'est le commencement est la même chose. Rabbi Zera se cachait de Rabbi Yehuda parce qu'il voulait monter en Eretz Israël, et pour la même raison, pour les mêmes raisons qu'on va voir ici. Et puis, finalement, un jour, il s'est décidé d'aller le voir. Ça, c'est dans la Gemara de Shabbat. Et il arrive chez lui un vendredi, la veille de Shabbat, où, pendant que son maître, Rabbi Yehuda, était dans sa salle de bain. Il se préparait pour Shabbat. Et alors, Rabbi Zera, à la porte de la salle de bain, entend Rabbi Yehuda s'adresser à son serviteur, qui l'aidait à se baigner, en lui disant, passe-moi le peigne, donne-moi le savon, attention à l'éponge. Et Rabbi Zera continue la Gemara, tout content, dit, si j'étais venu que pour écouter ça, ça m'aurait suffi, et il s'en va content en Eretz Israël. Là, c'est l'histoire de la Gemara de Shabbat. Et la Gemara dans Shabbat s'enchaîne, et de là, on apprend qu'on peut parler l'hébreu dans la baignoire. L'humour de la Gemara. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe là? La Gemara, avec son humour habituel, prend cette preuve-là, et nous dit, tu vois, on a le droit de parler l'hébreu dans la baignoire. Okay. Parce que, quelle est la question? On pourrait penser... On pourrait penser que, étant donné que dans la baignoire on est dans une situation d'impudeur, que l'hébreu c'est la langue sainte, on n'a pas le droit de parler hébreu dans la baignoire. Okay. Eh bien non, on veut nous dire qui était Rabbi Yehuda. C'est pas qu'il était contre, c'est qu'il avait des raisons d'empêcher. Il parlait l'hébreu même dans sa baignoire. Il ne parlait pas yiddish, il parlait l'hébreu. Bon, vous avez compris le sens. Ça veut dire qu'il était hébreu jusqu'au point que dans sa baignoire, il parlait l'hébreu. Alors que la langue de la communauté à Babel, c'est l'araméen. Okay. Ça veut dire, faites attention, ce Rabbi Yehuda, ce n'est pas un antisioniste dans notre langage. Mais certainement, il avait raison de. Et ces raisons, on va essayer de les étudier. Pour les comprendre, oui. C'est clair. Il y a même, dans la demande de Brachot, une discussion dans le 9e chapitre. Lorsqu'on établit les brachot qu'on va dire pour chaque fruit qu'on mange, ce Rabbi Yehuda avait demandé que chaque fois qu'il s'agit d'un fruit d'Eretz Israël, on dise une bracha spéciale pour dire que c'est un fruit d'Eretz Israël. Les rabbins d'Eretz Israël ont dit non, là, tu exagères, trop, c'est trop. J'ai compris du coup, ça peut être. Est-ce que c'est clair que vous situez les personnages? Vous avez compris? Alors, tout ce que nous allons commencer dans la discussion maintenant, entre Rabbi Zera et Rabbi Yehuda, c'est pas qu'il y a deux positions opposées sur l'essentiel, c'est qu'il y a des raisons contingentes qui font que Rabbi Yehuda dit non, alors que Rabbi Zera sait qu'il fait. Ça va jusque-là? J'enlève le mot de contingent, parce qu'il n'est pas sympa. Mais il y a des raisons autres. Alors on va commencer doucement. D'Amar Rabbi Yehuda. Parce que voilà ce que disait Rabbi Yehuda. Kola olé. Ni Babel. Tout celui qui monte de Babel, vous voyez le mot de Aliyah, Kola Ole, ni Babel, l'Eretz Israël, Over Be'ase. Tout celui qui fait sa Aliyah de Babel en Eretz Israël transgresse un commandement. Pourquoi? Shenehema, d'après ce qu'il a dit dans le prophète Jérémie, au verset, au chapitre 27, verset 22. Babel Ayuvaou, on les amènera à Babel, suivez bien le verset. On les amènera à Babel, Veshamayu, et là-bas ils seront Adyom Pokdi Otam, jusqu'à ce que je leur fasse signe. Je reprends le verset. Babel Ayuvaou, on les amènera à Babel. Veshamayu, et là-bas ils seront, ça veut dire là-bas ils resteront, Adyom Pokdi Otam. J'ai traduit, jusqu'à ce que je leur fasse signe. Le mot de pakod en hébreu a plusieurs sens. Adyom pogdiotam, ça veut dire jusqu'à ce que je tienne compte d'eux, dans le sens que je me souvienne d'eux pour les faire revenir, mais le sens direct du verset, adyom pogdiotam, jusqu'à ce que je leur fasse signe. On peut même traduire en hébreu moderne, jusqu'à ce que je leur donne une kouda, en leur envoyant des petits livres. Et adyom pogdiotam. Et là, tout de suite, apparaît le thème que nous avons étudié, ça veut dire donc que ces rabbins qui discutent, mais la Gemara, qui nous donne ses enseignements, savent qu'il y a des signes de la fin du temps d'exil. Ceux qui disent, le temps d'exil a le sens qu'il a. Même a priori, si on ne connaît pas la raison pour laquelle il fallait aller en exil, ça a sûrement un sens important. Il ne faut pas risquer la faute d'anticipation. Parce que la faute d'anticipation, c'est l'échec. C'est l'échec grave, et nous avons payé plus cher dans les faux messianismes que dans l'exil lui-même. C'est clair. Parce qu'il y a eu cette tentation de l'anticipation qui est un grand risque. Encore une fois, admettons par postulat qu'on ne sait pas pourquoi Dieu nous a jetés dans l'exil. Mais en tout cas, lui sait, il y a des raisons. Alors il ne faut pas risquer de fausser le sens de l'histoire d'Israël si on revient trop tôt. Il faut attendre des signes. De cette analyse apparaît un principe très clair, c'est qu'il y a des signes. Vous avez compris? Alors, on redit peut-être déjà les deux notions de base. Il y a des signes. Et si quand les signes arrivent, on n'en tient pas compte, on devient effrayé. Vous voyez comment sera le jour? Et malheureusement, on va voir ce qui est arrivé. Bon, mais ce que je veux tout de suite mettre en évidence, peut-être pour beaucoup d'entre vous c'est nouveau, c'est que ça, c'est pas de l'idéologie, c'est pas de l'analyse politique, c'est pas, je ne sais pas comment dire, du sionisme dans le sens moderne, c'est l'enseignement de la Gemara. Est-ce que c'est clair? Par conséquent, la seule question qui va rester, c'est que qu'est-ce que les babines font de cette Gemara? Mais je veux dire, jusqu'où ça va le comble du peuple juif? Cette Gemara, elle est dans le Talmud de Babylone. Si elle était dans le Talmud de Jérusalem, on pourrait se dire, bon, ça c'est des sionistes, mais elle est dans le Talmud de Babylone. À se demander, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les versets? Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Bon, alors je reviens au problème. Retenez l'expression, ad yom pokdi otam, jusqu'à ce que je leur fasse signe. Il y a deux sortes de signes. Pour le temps messianique, vous savez, premièrement la fin de l'exil, il y a le signe qui s'appelle Pekida et il y a le signe qui s'appelle Zechira, les Zacharti etre. Ici, on est dans la Pekida. Et la Pekida, ça veut dire fin du temps de l'exil. Ça va jusqu'à là? Alors, voilà ce que disait Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Zera doit répondre à ce verset. Parce que finalement, quel est l'enjeu? Tout se passe comme si Rabbi Zera dit, j'ai pas vu les signes. Rabbi Zera dit, mais moi je sens les signes. Vous avez compris que ça voulait dire mon sioniste à l'époque, de notre temps. Hein? Alors, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça encore. Hein? C'est-à-dire, l'option de l'élève n'est pas la même que l'option du maître. Et bien sûr qu'il connaît le verset de son maître, il va lui répondre. Mais bien sûr que le maître connaissait la réponse à l'avance. Je veux dire, je pourrais vous donner 1000 exemples dans la Gemara, mais rappelez-moi que la prochaine fois, si quelqu'un veut noter, c'est que la prochaine fois, pour vous montrer que la Gemara nous enseigne que dans des cas de ce genre, l'option de revenir en Israël, dans une autre Gemara, ni la référence au verset, ni le raisonnement ne peuvent suffire parce que les uns et les autres pourront citer le même verset, l'interpréter et faire des raisonnements sur le sujet. Il y a une option qui fait basculer. La chose importante, c'est de savoir avec qui est la halakha, comment la halakha est franchie. Je vais, vous comprenez le problème. Alors, tu m'as fait le problème de façon auditoire et de la mission. On étudiera la prochaine fois, je vais vous faire préparer les textes, et vous verrez que la halakha était sioniste dans la Gemara. Hein? Et elle nous donne les arguments des deux parties, et en citant le verset et en raisonnant, et elle dit, on ne peut pas trancher entre les deux, et pourtant on va décider que c'est quand même comme ceux qui montent en Eretz Israël, c'est clair. C'est juste une option. Mais là, encore une fois, je voulais situer un peu le profil de Rabbi Yehuda. C'est pas du tout un antisémite, un anti-Eretz Israël. Il parle hébreu dans sa maison. Rappelez-vous ça comme ça. Vous avez vu, vous, même un président de communauté en France parler hébreu dans sa maison. Je n'avais pas dit le grand rabbin, lui, il a le droit de ne pas parler, mais il connaît les mots. Bon. Alors, quel était donc le verset de la Bible? C'est Babel Ayuvaou, ils seront amenés à Babel, Veshamayu, et là-bas ils seront, Ad Yom Pokdi Otam, jusqu'à ce que je leur fasse signe, Neum Hashem, parole de Dieu. Je vais prendre le contexte, il manque une minute. Tiens, je vois pas ce pour moi, tu me cherches Jérémie, ça coûte 23. Et on va voir tout de suite la réponse de Rabbi. Ça veut dire, qu'est-ce que répondrait à cet argument? Puisque la thèse de Rabbi Yehuda est basée sur cet argument, il y a ces versets-là. Ils seront à Babel et là-bas ils resteront jusqu'à ce que la fascine. Il est évident que ce qu'il veut dire, c'est « donne-moi les signes ». Alors, Rabbi Zera va répondre à ce verset. J'ouvre une petite parenthèse, non, deux. D'abord, pour rappeler ce que j'ai dit, tout notre sujet, ça va être, c'est donc que les rabbins talmudistes connaissaient les signes de la fin d'un temps des signes. Est-ce que c'est clair? Bon, c'est ça qu'on va étudier. Parenthèse du point de vue de la méthode, une discussion de deux rabbins dans le Talmud, chacun doit expliquer comment lui comprend l'argument de l'autre. Sinon, c'est pas un vrai dialogue. C'est vrai? Donc, Rabbi Zera va répondre à Rabbi Yehuda, pas en annulant le verset, puisqu'il le connaît, d'ailleurs il le connaît son maître, mais en lui donnant le sens qui va dans sa thèse à lui sans annuler celle de Rabbi Yehuda. Sinon, ce n'est pas une vraie réponse. Parce que ce que dit Rabbi Yehuda dans ce verset est vrai. Par conséquent, la réponse de Rabbi Zera doit garder intacte la vérité de Rabbi Yehuda. Vous avez compris le problème de méthode? Enfin, j'en profite pour faire un peu de Talmud en passant. Absolument. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'empathie en logique moderne. Ça veut dire qu'il faut être capable de plaider le dossier de l'adversaire pour avoir le droit de s'opposer à lui. Si on n'est pas capable de plaider son dossier, on n'a pas le droit de discuter avec lui. Vous avez compris? Et réciproquement, bien sûr. C'est bien clair. C'est-à-dire, si nous étions à Pourim, eh bien, je vous ferai un exposé en psychologie sur cette même Gemara. Ne croyez pas que c'est pas vrai, c'est possible. Mais je vous le ferai d'ailleurs en caricature pour vous montrer comment ils se trompent les autres. C'est clair. Bon. Alors, donc nous sommes au verset 22. Voilà ce que dit le verset 22. Mais 27, je t'ai demandé. Je m'avais donné 25. J'ai eu peur de demander où ça passe. Non, j'arrive tout de suite. J'y arrive. Voilà. Babel a eu Baou. Veshama Iyu Adion Pogliotam. Voilà le verset. Donc, c'est verset 22 du chapitre 27 de Jérémie. Ils seront amenés à Babel. Et là-bas, ils resteront jusqu'au jour où je leur précise Néumachem, parole de Dieu. Vers Alitim, et je les ferai monter. Va à Shivotim et la Makomazé, et je les ramènerai à cet endroit. Et je les ramènerai à cet endroit. Par conséquent, c'est bien clair que le fond de notre problème, c'est qu'on attend des signes. Okay? Malheureusement, pour le relier, c'est une blague macabre, mais pour le relier à notre sujet, on n'a eu que les signes allemands. Les signes allemands. Alors, objection de Rabbi Zera. Vous suivez sur le texte de la Gemara, et Rabbi Zera, quant à lui, il répondra, « Ahou, ce verset que tu me cites, Bikle Sharet Ktiv, il est écrit à propos des ustensiles du temple. » C'est-à-dire, il concerne les ustensiles du temple. Les cons des ustensiles, c'est pas joli, mais les, en français, les clés, les kelim, les, la menorah, le shulchan, les, non, je vais vous en ustensiles, donc, les ustensiles. Et tout de suite, on est averti, qu'est-ce qui se passe là?